Au lendemain de la décapitation d'un professeur de collège, soucieux d'éduquer ses élèves à la laïcité, le ministre de l'Éducation a reçu les syndicats d'enseignants. Une réaction, celle du SGEN-CFDT ainsi que celle du directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès, Yannis Roeder. Nous devons réaffirmer la force des valeurs de la République, déclare Jean-Michel Blanquer. Il est urgent de ne pas laisser l'islam et le discours sur l'islam aux mains des radicaux, recommande l'essayiste et écrivain Kamel Daoud, invité des matins du samedi de Caroline Brouet. Enfin, avec Jean-Philippe Degnaud, nous ferons le point sur l'enquête et les rares informations dont on dispose sur l'assassin présumé abattu par la police. Les élections présidentielles en Guinée-Conakry à la veille du scrutin, carnet de campagne, celle d'Alpha Condé, signé Carole Valade. Corruption à la hausse, selon le rapport publié cette semaine par Transparency International. C'est le thème de la Bulle Écho de ce samedi, signé Marie Viennot. Parce qu'il s'appliquait à irriguer, développer l'esprit critique de ses élèves, un enseignant, professeur d'histoire en collège, était la cible d'un homme qui l'a décapité au nom d'un islam dévoyé. L'enseignant, mis en cause par certains parents, aurait eu le tort de montrer des caricatures de Mahomet en prenant soin d'éviter des élèves croyants de quitter la salle de classe. Dans le droit fil, des engagements pris par le chef de l'État qui s'est déplacé hier soir sur les lieux du drame. Le ministre de l'Éducation nationale a reçu ce matin les syndicats d'enseignants, une réunion au terme de laquelle Catherine Nave-Bekti, secrétaire générale du SGEN-CFDT, a eu les mots suivants.
On tient à ce que les enseignants aient une liberté dans l'élaboration et dans le choix de leur support pour enseigner ce qu'ils doivent enseigner. Et là, en l'occurrence, nous devons enseigner, ça fait partie de nos missions, ça fait partie du rôle de l'école que d'enseigner les principes de laïcité, de liberté d'expression, de liberté de la presse. C'est extrêmement important, c'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose, mais de liberté de la presse et donc de droit à la caricature. Ça fait partie d'une forme d'expression, d'opinion, de structuration du débat public que la caricature. Ensuite, nous, on ne souhaite pas, et je pense que mes camarades sont d'accord, que soit proposé aux enseignants un déroulé type à appliquer obligatoirement, mais qu'on soit bien sur les principes qui doivent être travaillés avec les élèves et que les équipes enseignantes puissent y travailler collectivement.
Voilà des propos recueillis par Jérôme Jadot. Il est urgent d'aider les enseignants à déconstruire les messages sloganisés qui pullulent sur les réseaux sociaux jusqu'à aliéner les esprits. Urgent de voler au secours d'une corporation qui estime être vulnérable et abandonnée. Yannis Roeder est professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et membre du Conseil des sages de la laïcité.
C'est un symbole républicain très fort. C'est par l'école qu'on ouvre les enfants au monde. C'est par l'école que, justement, on essaye de lutter contre tous les déterminismes, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient religieux, leur proposer à tous ces enfants de France, quels qu'ils soient, une ouverture, découvrir d'autres manières de considérer le monde, de voir le monde, découvrir des auteurs, découvrir des toiles, des images. C'est ça le rôle de l'école. Et justement, ce qu'il y a de terriblement fort dans le geste de l'assassin, c'est qu'il veut tuer cela, il veut tuer cette possibilité d'ouverture qui est offerte à tous les enfants de France.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui ce besoin de défendre les enseignants face à l'obscurantisme ?
Écoutez, d'une manière plus large, moi je crois qu'il faut défendre la République française contre l'obscurantisme. Les enseignants sont un pan de la République, je dirais qu'ils font partie avec d'autres fonctionnaires de la République des premières lignes qui doivent affronter justement les difficultés et cet obscurantisme, mais je crois que c'est toute la société française qui est concernée. Il faut une prise de conscience générale du danger qui nous tombe dessus, pas aujourd'hui, pas hier, mais depuis 20 ans. Et c'est cela qui me rend aujourd'hui en colère, c'est cette incapacité que nous avons eue à regarder la réalité telle qu'elle se proposait à nous. J'attends des politiques, tous autant qu'ils sont, de la responsabilité et une capacité aussi à nommer les choses. Quand je lis encore des tweets ce matin ou hier soir où le responsable, c'est-à-dire l'islamisme radical, n'est pas nommé, je ne peux que m'inquiéter.
Yannis Roeder avec nos confrères de France Info. Le ministre de l'Éducation nationale est en ce moment même à Matignon, tout comme le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, tous trois reçus par le Premier ministre. Prenons maintenant connaissance des derniers éléments de l'enquête avec un certain nombre de gardes à vue en cours, Jean-Philippe Degnaud.
Les 9 personnes interrogées par les enquêteurs sont des proches de l'assaillant, un jeune de 18 ans, né à Moscou et d'origine tchétchène. Il y a son entourage familial, ses parents, un grand-parent et son petit frère d'une part, et 3 autres personnes avec qui il semblait avoir des fréquentations régulières. Les 2 derniers suspects sont des parents d'élèves, dont un qui a posté une, voire 2 vidéos sur les réseaux sociaux ces derniers jours, dans lesquelles il se plaignait du comportement de l'enseignant le jour où il a montré une partie de cette classe de 5e, une caricature de Mahomet. Les enquêteurs cherchent à déterminer ce qui a conduit le jeune meurtrier à agir ainsi hier soir à 17h devant le collège du Bois d'Aulne, s'il a été incité à commettre ce massacre, s'il a été aidé ou guidé dans son geste. Ils cherchent aussi à déterminer s'il est l'auteur d'une photo de l'enseignant décapité, également postée sur Internet hier soir, avec un message dans lequel il revendique cet acte destiné, écrit-il, à venger le prophète Mahomet, message dans lequel il qualifie Emmanuel Macron de dirigeant des infidèles.
Cet acte de barbarie repose de la manière la plus sombre la question des instrumentalisations de toutes sortes de l'islam intramuros par quantité de corps politiques. Comme hors frontières, on risque d'alimenter les radicalités, comme le soulignait ce matin au micro de Caroline Brouet, l'essayiste et écrivain Kamel Daoud.
Il faut pouvoir, en français, vous parler de l'islam sans complexe. L'islam est une religion et la religion n'appartient à personne. Tout le monde en est propriétaire. Personne n'est Dieu, personne n'est son prophète. Donc j'ai le droit de parler du bouddhisme, du judaïsme, comme de l'islam. Si vous continuez à parler de l'islam comme s'il appartenait à une communauté, c'est que vous validez le statut d'interlocuteur exclusif chez les plus radicaux. Parlez de l'islam, il vous appartient, dissociez-le. Je suis pour le séparatisme, mais lequel ? Le séparatisme qui sépare la religion des pays d'origine et des pays souches. L'islam est français maintenant. Il faut l'assumer comme un fait français. Et si on n'arrive pas à le séparer du fantasme du pays souche, c'est qu'on n'a pas résolu le problème.
Kamel Daoud, dont vous pourrez retrouver l'intégralité de l'entretien qu'il a donné ce matin à Caroline Brouet sur franceculture.fr. Un hommage national sera rendu au professeur du collège Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, annonce ce matin de l'Élysée. Plusieurs partis politiques appellent à des rassemblements délicats à organiser compte tenu du couvre-feu à Paris, Île-de-France et 8 autres métropoles régionales comme Lyon, Lille ou encore Toulouse. Couvre-feu qui achève de décourager les théâtres, cinémas et salles de spectacle dont les responsables espérer un assouplissement, comme le préconisait d'ailleurs la ministre de la Culture en vain. La réaction d'Emmanuel Demarcy-Motta, directeur du Théâtre de la Ville et du Festival d'automne, sollicité par Isabelle Souquet.
Ce refus est vécu de manière assez violente. Certains ont même dit que c'était insultant, cette réponse aussi. Donc c'est un moment effectivement de crise difficile. Donc c'est un refus qui est d'une grande brutalité, en tout cas dans la capacité que nous avons de dialogue aujourd'hui. La question de la remise en cause du sanitaire, c'est en tout cas, en ce qui me concerne, très loin de moi. Puisque je travaille avec la PHP, avec l'hôpital de la Salpêtrière, nous avons conçu un programme santé-culture depuis le mois de février, qui avait démarré d'ailleurs avant la question du virus et du confinement. Qu'il n'y ait pas de confusion. Il ne s'agit pas de demander une dérogation parce qu'on est artiste et qu'on serait différent des autres. Tout le monde est à la même enseigne. Le virus est une chose très grave. Nous aurons beaucoup de mal à nous en remettre, je dirais aussi du point de vue psychologique. Nous n'étions pas prêts à vivre le confinement. Personne n'a de responsabilité directe et il ne s'agit pas de chercher des boucs émissaires parce que beaucoup de lieux sont fatigués, épuisés parce qu'il y a déjà eu à affronter une séquence très difficile et nous savons évidemment que les séquences à venir vont être très difficiles. Donc ça n'est pas le moment de faire preuve, je dirais, de brutalité. C'est le moment où justement il faut prendre le temps d'une concertation.
Emmanuel Demarcy-Motta, directeur du Théâtre de la Ville et du Festival d'automne. L'Azerbaïdjan jure de venger la mort de 13 civils dans le bombardement nocturne du Ganja, deuxième ville du pays. Nouvelle escalade du conflit du Nagorno-Karabakh entre Azerbaïdjanais et séparatistes arméniens. Plus de 5,4 millions de Guinéens sont appelés à choisir leur président demain. Épilogue d'un an de division meurtrière autour d'un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Alpha Condé qui aura modifié la constitution à dessein et réprimé dans le sang de nombreuses manifestations de contestation. Notre correspondant à Conakry, Carole Valade, a suivi le chef de l'État dans sa campagne à l'intérieur du pays.
En meeting, Alpha Condé se métamorphose de sa voix rauque qu'il harangue la foule, arpente l'estrade, grimace et mimique. Je suis malade, lance-t-il pour tourner en dérision ses opposants qui le disent trop âgé pour faire campagne. À 82 ans, le président saute d'avion en hélicoptère pour sillonner le pays. Et selon lui, le peuple veut qu'il reste au pouvoir au-delà des deux mandats prévus par l'ancienne constitution qu'il a fait remplacer par une nouvelle loi fondamentale au printemps dernier. Un revirement en contradiction avec son parcours d'opposant historique, disent ses amis. Lui qui fut emprisonné par la dictature militaire, lui qui se présentait comme le Mandela de l'Afrique de l'Ouest, Mandela n'a fait qu'un seul mandat, rappelle son adversaire Seloud Alain Diallo.
Il y a beaucoup aussi des amis à lui qui ont essayé de lui dire « Écoute, sois Mandela, sors par la grande porte, tu revendiques 40 ans de combat pour la démocratie. » Il ne faut pas que le goût du pouvoir te conduise justement à ternir ton image dans l'histoire de la Guinée.
Mais Alpha Condé n'en a cure, certains le disent pris par l'hubris du pouvoir. Ses partisans jugent qu'il est le seul à même de diriger le pays.
Pourquoi on peut permettre à d'autres d'avoir 4-5-6 mandats et pourquoi pas la Guinée? Parce que nous, on ne vit à personne, on ne se souvient à personne. On ne sait pas notre pays, notre dignité.
Je ne suis pas un dictateur, déclare-t-il à la presse, plus déterminé que jamais à rempiler pour 6 ans.
La bulle économique, Marie Viennot.
La corruption est en hausse et concerne les 3/4 des échanges commerciaux selon un rapport publié cette semaine par Transparency International.
L'Inde contre la corruption. Un refrain pour une chanson, mais pas un leitmotiv pour ce pays quand il s'agit de contrer la corruption internationale. Entre 2016 et 2019, l'Inde n'a lancé aucune investigation sur la corruption étrangère et personne n'y a donc été condamné. Pourtant, l'Inde pèse 2% des exportations mondiales. La Chine pèse plus de 10% des exportations et elle non plus n'a mené aucune investigation à ce sujet. Les fonctionnaires chinois se font-ils soudoyer pour attribuer des marchés? Les entreprises chinoises proposent-elles des dessous de table pour en gagner? C'est l'opacité totale et cela n'intéresse même pas Pékin à lire le rapport que vient de publier l'ONG Transparency International. La corruption concerne les 3/4 des échanges commerciaux selon ce rapport, mais rares sont les pays qui la traquent, enquêtent et condamnent ceux qui la pratiquent. Pire, les pays qui luttent activement contre la corruption sont de moins en moins nombreux. Un tiers de moins qu'il y a 2 ans. Ils sont 4, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et la Suisse. La France, elle, fait partie du groupe de 8 pays qui mettent modérément en œuvre les préconisations faites par l'OCDE pour lutter contre la corruption d'agents étrangers. Avant, la France était dans la catégorie « lutte limitée ». Modérément, cela veut dire que l'arsenal législatif existe, ainsi que les institutions chargées d'enquêter sur la criminalité économique et financière, mais qu'il y a trop peu de poursuites en cours, vu le poids de notre pays dans la mondialisation et donc son exposition au risque de corruption. Au cours de la période 2016-2019, la France a ouvert 8 enquêtes, 7 affaires et clôturé 9 affaires sanctionnées, recense Transparency. En janvier dernier, par exemple, Airbus a accepté de payer 2,3 milliards d'euros à la France pour avoir « facilité » entre guillemets ses ventes, notamment en Égypte. C'est un mieux indéniable, mais il reste du chemin à faire. Pourquoi le parquet national financier n'enquête toujours pas sur Alstom, alors que l'entreprise a reconnu sa culpabilité dans des faits de corruption aux États-Unis il y a 6 ans, s'interroge Anticor. Qui ne cherche pas, ne trouve pas. Comment se fait-il que les magistrats chargés de ces enquêtes ultra sensibles soient en France sous la tutelle du ministère de la Justice, relève Transparency. Ce manque d'indépendance est une critique récurrente pour la France et nourrit des soupçons d'ingérence politique, soupçons ravivés dernièrement, mais pas pour un cas de corruption internationale, au point que François Molins, procureur général près de la Cour de cassation, s'en est alarmé dans Le Monde et au micro de RTL fin septembre.
C'est pas la magistrature qui est en danger, c'est l'indépendance de la justice, c'est tout à fait différent.
Manque d'indépendance, manque d'effectifs aussi, la lutte contre la corruption n'a toujours pas, ni en France ni ailleurs, les moyens de ses ambitions. Les progrès sont minimes, notre Transparency, la coopération internationale poussive. En général, estime Eric Halt, vice-président d'Anticor, c'est le cynisme qui domine. Quel pays voudrait déstabiliser ses champions économiques quand il remporte un marché ? Si la corruption internationale aligne peu de condamnations, elle fait en revanche beaucoup de victimes. 88 milliards de dollars de capitaux illicites sortent d'Afrique chaque année, selon un récent rapport de l'ONU. C'est deux fois plus que le montant de l'aide publique au développement. Or, cette fuite des capitaux est majoritairement le fait d'opérations commerciales. Plus que de nouveaux prêts ou de moratoires sur le paiement des intérêts de leurs dettes, comme viennent de l'accorder les ministres des Finances du G20 pour les pays les moins avancés, c'est de justice dont ont besoin ces pays. Encore plus aujourd'hui, car la corruption a su profiter de la pandémie et des fonds débloqués en urgence pour se déployer plus encore.
Merci à vous, Marie Viennot. Ainsi se referme la bulle économique. Le temps, en quelques mots, beau mais couvert et humide dans le Nord. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue, à la technique Clément Daté.